Bras zéro, brassage radio. Aujourd'hui, radio précaire, c'était jeudi 5 avril 2018. Il y a eu un appel national à la grève des précaires de l'éducation. Alors qu'à Paris, un cortège s'est formé pour crier « Tout le monde déteste la précarité », à Toulouse, dans l'université du Mirail occupée et bloquée, le collectif des précaires a préféré jouer à domicile en organisant une journée de discussion et d'organisation. Un appel a été lancé, relayé promptement par Sud-Éduc 31 et entendu par des assistantes d'éducation, des vacataires de l'université, des membres de l'Assemblée des chômeurs et précaires, une mère isolée, des contractuels du secondaire et même des titulaires de primaire. Certaines étaient syndiquées à Sud-Éducation, d'autres pas. Certaines étaient au collectif des précaires du Mirail, d'autres pas. Certaines ont volonté de faire un collectif des précaires du secondaire. D'autres pas. Certaines se reconnaissent dans la dénomination de précaires, d'autres pas. Sous un joli soleil printanier, tout ce joli monde a discutaillé conditions de travail et perspectives de mobilisation. D'abord, toutes et tous ensemble, ensuite par petits groupes. Ces discussions ont donné lieu à des enregistrements que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui. Bonne écoute.
On s'est dit qu'on raconterait des anecdotes de nos vies de précaires. Moi, ce dont je voulais faire part, c'était la signature de mon contrat de chargé de cours de cette année qui a été un peu chaotique. En fait, moi, je suis doctorante en anthropologie et je donne des cours depuis plusieurs années. Avant, j'étais à Terre, donc là, je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Donc maintenant, je finis ma thèse en étant au chômage. Mais je suis aussi chargée de cours. Donc chargée de cours, on est payé à l'heure et on est payé normalement deux fois dans l'année pour le premier et le second semestre. Sauf que comme ça fait plusieurs années que je donne des cours, ça a pas mal ralenti ma thèse. Du coup, je fais une thèse qui est assez longue et ça fait quelques temps maintenant que l'école doctorale râle sur les vieux doctorants et il y a une pression de l'université qui sont en train de nous construire sur le fait de faire des thèses courtes, des vraies thèses en 3, 4 ans et pas plus. Voilà. Et cette année, on est plusieurs doctorants et doctorantes à avoir subi des grosses pressions pour la réinscription en 6e ou 7e année, même en 5e d'ailleurs, sur le fait que nos thèses étaient trop longues et qu'ils ne voulaient pas nous réinscrire. Donc c'était une vraie pression morale sur la réinscription. Et le problème, c'est que tant qu'on n'était pas réinscrit, on ne pouvait pas signer notre contrat de chargé de cours. Donc moi, pendant ce temps-là, je donnais mes cours, sans contrat. Et finalement, mon contrat a été signé tardivement, en janvier, en fait, puisque je me suis inscrite à l'université en tant que doctorante fin décembre. Et donc, vu que mon contrat a été signé en janvier, évidemment, je n'ai pas touché ma paye de chargé de cours du premier semestre. Mon contrat, je l'ai signé bien après avoir fini de donner mes cours.
Donc, à la fois, tu dois... et faire ta thèse très vite et donner des cours en même temps, quoi.
C'est ça. Vu qu'il n'y a pas de poste, en fait, il manque cruellement de titulaires et qu'il faut bien assurer les cours, eh ben, il pousse les doctorants et les doctorantes, entre autres, à assurer des charges de cours parce qu'il faut bien donner les cours, quoi.
Et du coup, je te pose une question un peu rhétorique parce que j'ai la réponse, mais pourquoi il vous pousse à faire des thèses aussi courtes? Et ça fait quoi?
Il pousse à faire des thèses aussi courtes parce que ça, bientôt les thèses non financées, ça n'existera plus. Or, moi, quand j'ai commencé ma thèse, en fait, il y avait très peu de ma génération et il y avait très peu de thèses qui étaient financées en anthropologie. Or, maintenant, en fait, toutes les thèses vont être financées. Ça va être des thèses soit sur projet, soit des contrats doctoraux. Et ce qui permet, du coup, ils contrôleront, il n'y aura plus de thèses au-delà de 4 ans, quoi. Parce que ce sera de la recherche sur projet, parce qu'il n'y aura plus de thèses et de recherche comme on la connaît.
Ouais, donc sur des sujets plus précis, quoi.
Ouais.
Plus balisés.
Moi, c'est une autre forme de précarité, en gros, hein, dont je vais parler. Donc moi, je suis étudiante ici au CED en sciences de l'éducation. Et à côté de ça, je suis AED, c'est-à-dire pionne, dans un collège. Et en fait, moi, l'expérience que je voulais raconter, c'était que donc au début de l'année, en fait, tous les ans, il y a des élections qui ont lieu pour élire des représentants AED au CA, qui déjà n'ont pas vraiment été faites en fait cette année. Les délégués, en fait, ont été un peu désignés d'office parce que c'était les deux plus anciennes et personne n'a vraiment eu son mot à dire dessus, alors qu'on était d'autres à être volontaires et on nous a pas demandé notre avis. Et en fait, le truc aussi, il se trouve, c'est que ces deux personnes donc, qui ont été désignées ne sont plus présentes aujourd'hui dans l'équipe de vie scolaire parce qu'elles ont trouvé un autre boulot, du coup, elles sont parties ailleurs. Et donc on n'a plus de représentants et ils veulent, enfin ils nous disent qu'ils ne peuvent pas, enfin que c'est absolument impossible d'organiser des élections pour qu'on ait des représentants. Et bah du coup c'est un peu problématique qu'on n'ait pas de représentants quand même. Et ça c'est bah c'est assez dommage parce que du coup on peut pas vraiment faire entendre notre parole et ben ça montre un peu aussi un manque de reconnaissance et de considération de la part de notre hiérarchie et bah des autres personnels aussi de l'établissement quoi du coup voilà.
Ouais, donc grosse invisibilité du personnel précaire, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça.
C'est ce qu'on connaît un peu ouais. Aussi ici, ouais.
Et en plus, donc du coup, là, c'était la deuxième anecdote, c'est que donc le jeudi 22 mars, on s'était tous mobilisés, toute l'équipe de vie scolaire, pour faire grève et pour peser, pour montrer que si, qu'on est important et qu'en fait, le travail qu'on fait... peut-être qu'ils ne le voient pas, mais qu'ils comptent. Et en fait, quand on est revenu, tout le monde nous a dit « Ah bah ouais, mais en fait, ça s'est super bien passé quand vous n'étiez pas là. Il n'y a pas eu de soucis. » Donc, encore une fois, nous rappeler que bah non, qu'en fait, on ne sert à rien, quoi.
Voilà,
c'est assez méprisant et c'est pas très facile à vivre quand on a envie de s'investir de l'autre côté dans notre boulot et qu'on considère que si, en fait, ça a une importance vis-à-vis des élèves parce que c'est pour eux qu'on est là. Mais qu'en fait, personne ne le voit à part les élèves, quoi.
Ouais, qu'il n'y a pas du tout de reconnaissance.
Carrément, hein, juste pour rebondir sur ce truc de l'invisibilité des précaires, ça je crois que c'est ce qui se passe un peu partout, dans les Ducnat et aussi ici à l'université, c'est hyper flagrant. Hein, nous, c'est un peu la lutte qu'on mène avec le collectif, de se faire voir d'être reconnu comme personnel à part entière.
Et je pense que cette maison de la précarité, c'est aussi pour ça qu'on l'a voulu au centre de l'université sous le préau, parce que c'était aussi une manière de... que tout le monde nous voit, parce qu'on demande une salle depuis plus de 2 ans maintenant et que cette salle, on ne nous la donne pas. Et que construire cette maison de la précarité, là, en plein milieu, quand on arrive sous le préau, c'était aussi un moyen de montrer qu'on était là.
Ouais. Un petit peu de mise en contexte pour des gens qui ne seraient pas là. Nous sommes donc dans une cabane en palette, sans toit, si ce n'est le ciel et le préau, justement. Et voilà, c'est ça, une maison précaire pour du personnel précaire.
Avec l'idée qu'on aimerait bien avoir, peut-être pas une vraie maison, parce qu'en vrai, la nôtre, c'est déjà une vraie maison, mais en vrai, un local à l'université qui soit pérenne, parce que comme on est précaire, on est là 1 an, 2 ans, 10 ans, et après on bouge, et il y a d'autres personnels précaires qui arrivent et qui doivent repartir de zéro, et qu'avoir un vrai local pérenne, ce serait... attendez, il y a un appel à je ne sais pas quoi. Bref, voilà, pour redire à nouveau l'importance d'avoir un lieu, c'est-à-dire un espace et du temps pour s'organiser en tant que précaire et être reconnu comme du personnel indispensable à peu près partout dans tous les lieux de travail. Peut-être je continue moi sur une dernière expérience que je voulais raconter. Moi, c'est un peu sur le truc de la précarité à long terme. Ça veut dire que j'ai... Enfin, à long terme, ouais, tout est relatif, mais j'ai soutenu ma thèse en 2010, donc j'ai fini mes études en 2010, et ça va faire 8 ans, du coup, que j'enchaîne différentes sortes de contrats. C'est-à-dire, j'ai été à TER, comme tu disais, Marine, hein, c'est un peu l'équivalent de maître de conférence, mais sur 1 an ou 2, puis j'ai eu des post-docs, c'est-à-dire des contrats de recherche, et puis, en parallèle, je suis chargée de cours. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent on nous dit « Ouais, mais là, il y a des contrats qui ne sont pas précaires. Donc effectivement, tu es bien payé, tu fais un travail intéressant, etc. » Sauf qu'en vrai, tu as un chouette contrat pendant 1 an, mais après ça s'arrête. Et l'université, elle fonctionne vachement et de plus en plus sur des contrats courts, que ce soit en recherche et en enseignement. Ça veut dire aussi que tu bosses hyper bien pendant 1 an et qu'après, pendant 1 an ou 2 ans, tu bosses hyper bien sur ton chômage. Donc en fait, tu fais du travail gratos à mort parce que tu as besoin de continuer à travailler pour faire du CV, pour éventuellement trouver un poste. Et là où aussi c'est précaire, c'est que tous les anciens disent « Ah bah ouais, mais nous aussi, on a été précaires pendant 1 an ou 2, tu fais un postdoc, c'est normal pour avoir un poste. » Sauf que nous, on sait très bien qu'en vrai, on est peut-être 0,1% de personnes qui trouveront un poste après avoir fait tout ce parcours du précaire. Puisque de toute façon il n'y a pas de création de poste, donc en vrai après la thèse t'es là, t'es chaud et tu fais des contrats et des atters et des machins jusqu'à ce qu'après de toute façon tu peux plus faire de post-doc parce que ça fait trop longtemps que t'as soutenu, tu peux plus faire atter parce que t'as déjà fait tes 2 ans et tu te retrouves avec des charges de cours qui là sont le plus bas du bas du contrat de l'enseignant chercheur.
Señorita magnetitita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. Hey, hey, y me trae otro café. Hey, hey, hey.
mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. No soporto su presencia, su cara, su aliento, pesta caño y estiércol. Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa. Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. No la regaña porque ella con la lengua le quita las lagañas. Explotador y mamón, así es de la empresa nuestro director. Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo le escupo en el café que le llevo. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera.
Bon ben, moi je vais d'abord me faire la porte-parole d'une vacataire d'une université de psycho en Occitanie. Qui ne souhaite pas témoigner directement. Et donc, cette personne-là, elle a eu sa thèse il y a déjà 7 ans. C'est ça. Enfin, il y a des années qu'elle a eu sa thèse, elle n'a pas trouvé de travail et elle est un peu obligée, dans l'espoir d'obtenir un poste de chercheuse, d'être vacataire dans l'université en question. Et en tant que vacataire, elle travaille environ, on va dire, une vingtaine, voire plus de 20 heures par semaine à faire du suivi de mémoire de master. Et elle est payée pour 3 heures par mois. Elle touche 200 euros par mois, cette personne, pour faire une vingtaine d'heures par semaine de travail. Voilà, elle fait un peu de recherche à côté, etc. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour vivre. Hein, donc, elle est obligée de frauder le RSA. Alors voilà, pour pouvoir vivre, elle fraude les prestations sociales. Et c'est dramatique. Et en fait, ce qui la tient, parce qu'effectivement, on pourrait lui répondre... Tu veux dire quelque chose, Naïma ?
Oui, c'est que c'est pas de la fraude à ce niveau-là.
Oui, voilà, ça s'appelle officiellement de la fraude, mais on est tous d'accord, tous d'accord pour dire que
c'est... C'est du bon sens.
C'est de la survie et que... C'est légitime en l'occurrence parce que ce qui fait qu'elle part pas, tout simplement, qu'elle lâche pas l'affaire et qu'elle cherche pas un travail ailleurs, c'est que là il y a un espoir, il y a une carotte qui est d'obtenir un poste de titulaire dans le métier qu'elle souhaite faire et pour lequel elle travaille depuis des années, pour lequel elle a passé une thèse. Voilà.
Alors moi je suis pas précaire, je suis instit titulaire. En revanche, il y a quand même quelque chose qu'on a de commun avec les précaires, c'est tout ce qui est invisibilité du travail et le travail gratuit, notamment. Le travail gratuit, pour nous, il peut passer par plusieurs choses, mais il passe notamment et de plus en plus par tous ces mails qu'on reçoit chez nous. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on apporte le travail à la maison, bien qu'on en ait déjà suffisamment, on a du travail supplémentaire en plus via cet outil fabuleux qu'est l'informatique. Ça pose donc deux problèmes. Donc déjà dit, le fait qu'on travaille gratos en plus de nos heures de cours et de préparation. Mais en plus, ça individualise encore plus parce qu'on se retrouve seul face à notre ordinateur. Des fois, on ne sait pas toujours quoi faire. Il y a des prises de décision qui devraient nécessiter discussion et on ne peut pas parce qu'on est tout seul. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est tous ces mails. Et la deuxième chose, en termes d'anecdote, c'est, on dit souvent, ouais, mais les profs, c'est bon, vous avez vos vacances, vous n'allez pas vous plaindre, vous êtes payés à rien foutre. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie professionnelle d'aller bosser comme tout à chacun, tout à chacune, en fait, pendant ses vacances. Et donc, je vais à l'école pendant une journée. Et en fait, je m'aperçois que, ah, bah tiens, en fait, l'alarme n'est pas enclenchée. Je me dis, ah, il y a quelqu'un, c'est marrant. Et donc, je rentre dans l'école. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tous nos collègues qui sont là. En fait, je viens bosser pensant être seule. Et en fait, pas du tout. Il y a déjà tous mes collègues qui sont déjà là et qui bossent. Donc, du coup, comme moi, gratuitement, sur leurs vacances. Voilà.
Eh bien, écoute, moi, je vais me permettre de rebondir, Tanguy, tu permets, je vais me permettre de rebondir sur cette notion d'invisibilité du travail et de gratuité du travail, puisqu'à titre personnel, moi, je suis venue pour justement, je ne suis pas une précaire de l'éducation nationale, mais je suis, comme tu disais, Tanguy, une précaire de l'éducation tout court, puisque je suis mère isolée de deux enfants et que je les éduque, je les nourris, je les gère dans tous les sens du terme. Et que ce travail-là, il est invisible, il est gratuit, il n'est absolument pas du tout reconnu par aucune instance, au point que on est, nous aussi, les parents isolés, et notamment les mères, parce qu'on est majoritairement des femmes à être à la tête de foyers monoparentaux, on continue d'être enjointes, comme le reste de la population, à être autonome, entre guillemets, économiquement. Ça veut dire à ne pas compter sur l'aide de l'État, mais à se débrouiller tout seul sur le marché du travail. Or, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être au four et au moulin. On n'a qu'un cerveau, deux bras, deux pieds. Et donc, on ne peut pas à la fois fournir 20 ou 30 heures de boulot par semaine à la maison parce qu'on gère des individus. En plus, ce n'est pas comme déplacer des paquets, quoi. C'est aléatoire, ça change tout le temps, ça demande de la présence. En plus, il y a une grosse pression sur les mères parce qu'on a tout un tas de devoirs que d'autres parents n'ont pas. Donc, on ne peut pas à la fois faire 30 heures par semaine à la maison et faire 35 heures à l'extérieur. Ou en tout cas, ça mériterait des primes, quoi. Donc voilà, je voulais que personne n'oublie, essayer de ne pas oublier tous et toutes qu'il y a un travail qu'on ne voit pas, qui se fait souvent à la maison, donc qui ne se voit pas. Et même quand il ne se fait pas à la maison, personne ne le voit, ça paraît naturel. Et donc, on l'oublie, on l'occulte. Et voilà, il y a des gens qui souffrent aussi de cette précarité-là.
Oui, et pour le coup, c'est majoritairement des femmes.
Majoritairement des femmes, ouais.
Moi, c'est Tanguy, je suis assistant d'éducation au Collège Lamartine à Toulouse. Aujourd'hui, à la vie scolaire, on est 7 AED, 6 en grève, un qui a décidé d'aller travailler. Bon, je lui souhaite bon courage. Moi, je vais parler, c'est vrai que du coup, on parle de la précarité. C'est vrai que ça pouvait avoir un aspect plutôt sur la finance a priori, mais d'avoir entendu tout le monde, je viens de me rendre compte que on va aussi parler de la précarité de notre cadre de travail. Je pense que le collège dans lequel je travaille avec mes collègues est un très très bon exemple. C'est un cadre complètement qui n'a pas de cadre, un cadre sans cadre. Où au final, c'est ma première année en tant qu'AED, je ne considère ne pas avoir eu de formation adéquate. On m'a lâché dans une arène avec un public que je ne connaissais pas, mais qu'aujourd'hui j'ai appris à connaître et je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Gros problème avec la communication avec les enseignants, gros problème avec l'autorité qu'il faut instaurer auprès des élèves, c'est très compliqué. Ils sont dans le déni, ils sont dans le refus. Nous, on essaye du mieux qu'on peut de leur faire comprendre que c'est important, l'école, mine de rien, c'est important. C'est ce qui vous ouvrira une voie quelque part, une fois dans votre vie, sans pour autant vous empêcher de croire en vos rêves. Mais voilà, on a ce cadre, on n'a pas de salle d'études dédiée à l'étude. On a un foyer miteux. Sans canapé, comme on pouvait le croire ou le voir dans les lycées. Voilà. Je parle.
Tu veux dire qu'il n'y a pas seulement une histoire d'argent, mais un cadre et des moyens matériels.
Exactement, on ne nous donne pas les moyens d'accomplir ce qu'on nous demande d'accomplir au final. Mm-hmm. On est un peu dans... Ça a l'air simple comme ça. Hein. On va te dire, ouais, t'es pion. Oui. C'est vrai qu'on est pion, voilà. Mais c'est plus que ça.
Mais même ce mot, pion, il est terrible en fait, pion et pionne.
Ce pion, pion, ouais. C'est dur. Hein, c'est le terme officiel est assistant d'éducation. Mais oui, voilà, donc c'est de la surveillance. Ça va être se pointer à 7h45 le matin pour ouvrir le portail. Ça va être vérifier que tout le monde a son carnet. Ça va être arriver à la vie scolaire et voir la déferlante des élèves qui ont leurs mots. À tamponner, à scanner, à enregistrer, à s'assurer que les élèves ne sont pas en train de traîner dans les couloirs. On est en sous-effectif constamment, on court après les élèves pour les pousser à retourner en classe.
Et est-ce qu'une des conséquences de ça, sous-effectif notamment, c'est pas une violence dans les cours de récréation notamment? Enfin, moi, j'ai bossé en collège et j'avais l'impression que les gamins étaient laissés à eux-mêmes, que c'était la jungle, qu'il n'y avait pas suffisamment d'adultes surveillants pour empêcher du harcèlement et de la violence. Quoi.
Ah non, c'est beaucoup de violence, oui, c'est beaucoup de violence dans les gestes, dans les paroles, dans l'attitude, dans...
Bon, après, quand même, la première des violences, elle est quand même institutionnelle, et ça, faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire que la violence qu'il peut y avoir dans l'éducation nationale, c'est quand même l'éducation nationale elle-même qui l'induit, cette violence-là.
Tout à fait.
C'est pas les élèves qui sont violents pour être violents.
Complètement.
Il y a toujours... c'est pas quelque chose qui est inhérent à l'individu, enfin, aux collégiens et aux collégiennes qu'on a en face de soi, quoi.
Ah oui, non, mais moi, je suis pour une remise en question de l'éducation et de l'autorité vis-à-vis des élèves. Je pense que le cadre dans lequel on les fait baigner n'est absolument pas celui dans lequel ils vivent à l'extérieur.
Oui.
Par rapport à leurs habitudes, ils sont contraints à être modelés dans le cadre de l'éducation nationale, mais il y a ces points de divergence où au final ça colle pas vis-à-vis de leurs habitudes en dehors. Ils sont quand même êtres humains,
Mais après, du coup aussi, c'est aussi à mettre en corrélation avec leurs conditions de vie à eux aussi, et notamment la condition de vie de leurs parents, qui sont, le collège Lamartine, les élèves ne sont pas issus de milieux archi favorisés, et du coup, on en revient toujours à cette histoire de précarité, qui est que les parents sont aussi vivent aussi dans des conditions de vie très précaires. Et que par répercussion, les élèves vivent ces conditions-là aussi. Donc,
Lamartine, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est 70% des élèves qui ont droit à 100% des bourses. Donc c'est clairement, c'est conséquent. C'est conséquent. Et moi, j'adore ces élèves. C'est vraiment, j'ai envie de les comprendre. J'ai envie de faire en sorte que. Mais on n'a pas les moyens. On n'a pas la pédagogie derrière. On n'a pas le suivi. On est un élève turbulent. C'est un élève qui va être exclu, trois fois dans la journée. C'est un élève qui va être exclu définitivement du collège pour une période de 10 jours. Qui va revenir, qui va recommencer, qui sera exclu définitivement de l'établissement et qui va faire ça. Il y a des gamins, ils sont en quatrième, ça fait 3 collèges qu'ils font.
Et tout à l'heure, vous disiez un peu, tous les AED, là, que le problème, c'est que si vous espérez changer quelque chose, en fait, il n'y a pas moyen, parce que vous êtes corvéable à merci, comme on dit, et puis, il y a une durée limitée des contrats aussi, non ?
C'est 6 ans maximum. C'est des contrats, apparemment, moi j'ai entendu qu'on pouvait faire des CDI de 3 ans.
CDD, tu veux dire ?
CDD ?
Oui.
Ouais, oui, 3 ans. CDD, pardon. Et donc, sinon, ouais, c'est 6 fois 1 an.
6 fois 1 an,
c'est 6 ans, ouais, maximum. Mais étalable. Par exemple, on a quelqu'un qui vient d'arriver, il a déjà fait 4 ans, puis il a travaillé, et maintenant, là, il revient pour sa 5e année. Et voilà. Mais d'accord. C'est 6 ans maximum. C'est pas considéré comme un métier. À l'entretien d'embauche, on nous dit AED, ce n'est pas un métier. C'est une passerelle, c'est une façon de... C'est un tremplin. Vers quoi, je ne sais pas. Si, il y a l'avantage que si on est titulaire d'une licence, d'un bac plus 3, on peut postuler après 3 années dans l'éducation nationale au concours interne pour être du coup professeur dans le second degré. Et voilà.
Voilà. Ouais, ça aussi, c'est un choix. Ils pourraient très bien faire des contrats de 3 ans, ils choisissent de faire des contrats d'un an exprès pour que le renouvellement soit une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des AED en fin d'année, où si t'es un peu trop gréviste, si t'es un peu trop contestataire, si t'es un peu trop, si tu te laisses pas faire, et ben attention, il y a la reconduction.
Et d'ailleurs, pour moi qui suis candide, tu peux me rappeler un contrat AED, ça, c'est combien d'heures par semaine?
Moi actuellement, moi je suis à temps plein, donc je travaille 40 heures par semaine.
40 heures par
semaine.
Ouais,
40 heures par semaine. Ouais.
Et t'es payé au SMIC de l'heure?
Enfin, le taux horaire exact, je sais pas, mais je suis payé...
Je suppose que c'est le SMIC minimum, enfin, il n'y a pas de raison.
Moi, 1200 euros par mois, mais pour les 40 heures.
Ouais. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male. E finisce in ospedale non c'è posto, e si può morire presto, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
Brasero, approche-toi moi du micro.
Ouais, bah nous, comme les autres personnes qui sont exprimées juste avant nous, on a discuté un petit peu de nos situations, de nos conditions de travail, que ce soit à la fac
ouais.
ou dans l'éducation nationale, en tant que surveillante, en tant qu'enseignant contractuel. Et c'est vrai qu'on a trouvé pas mal de ponts en fait entre nos situations, bien qu'on ait des contrats différents. Et on est parti notamment du fait que on n'est pas formé. En fait, on n'est pas formé à assurer nos fonctions. Quand on arrive dans des établissements, on est un peu catapulté dans des fonctions qui ne requerraient pas, a priori, de formation, alors que, justement, on nous demande de faire plein de choses, notamment en ce qu'on parlait pour le statut de surveillante. Dans le fait qu'en fait on va te demander d'être ultra polyvalent, d'avoir à la fois un travail social, d'avoir un travail de suivi. Et qu'en fait, ça, t'es pas formé pour ça, peut-être parce qu'on considère que ça nécessite pas une formation. Donc déjà, c'était un peu le premier le point de départ. Et puis en fait, on s'est dit que peut-être c'est parce que on considérait que ce temps de travail là que tu passes, c'est considéré comme de la formation en elle-même. Et du coup, ça pose problème si ton temps de formation il se pérennise et qu'il dure des années, voire des dizaines d'années, quoi.
C'est ce qu'on voit finalement à la fac en tant que vacataire. En tant que chargé de cours, comment on commence chargé de cours? Eh bien, c'est quand on est en doctorat, qu'on veut se former à l'enseignement, qu'on a besoin de se former à l'enseignement pour faire valoir plus tard des compétences pour être ATER ou pour être maître de conf. Et donc, on commence en tant que vacataire. Et c'est vrai que après avoir passé un doctorat, après avoir été ATER, qui est un contrat précaire, mais un peu mieux, mais qui est contractuel, qui n'est pas vacataire, on retombe vacataire. Donc, on retombe un peu dans ce statut qui serait un statut de formation. Finalement, c'est considéré comme un statut de formation, sauf qu'on n'a plus besoin d'être formé, mais il se pérennise quand même, on continue, et c'est comme ça aussi qu'on imagine aussi que ce statut est dévalorisé. Il est dévalorisé parce que c'est vu comme un statut de formation, mais qu'aussi en tant que vacataire, on donne des cours qui sont pas prisés, on va dire, qui sont pas prisés par exemple par les enseignants titulaires. Donc oui, il y a ce truc qui fait que ce temps de formation se pérennise, ouais. Vas-y, continue.
Et en fait, ce qu'on disait, c'est aussi que la précarité, c'est vachement. Nos conditions précaires sont symptomatiques de la très forte hiérarchisation en fait de l'enseignement. Typiquement, que ce soit à la fac ou dans le secondaire. Les précaires, en fait, c'est ceux qui vont prendre les classes que personne ne veut ou prendre les enseignements que personne ne veut. Et c'est assez fou parce que, par exemple, les précaires, je pense que la plupart des précaires dans l'éducation nationale, c'est ceux qui vont être surveillants AED. Mais en fait, c'est eux qui vont avoir toutes les fonctions d'être plus proches des élèves, qui vont faire tout un travail social. Je ne sais pas s'il en a parlé, le camarade, juste avant, mais il parlait d'une situation où, justement, il se retrouvait dans une situation plutôt de confiance avec un élève qui lui confirme, en fait, pourquoi est-ce qu'il avait des réactions violentes, etc. Et là, il y a sa supérieure qui est arrivée en lui disant, mais en fait, retourne au boulot, quoi. comme si en fait le lien avec les élèves, comme si en fait tout ce travail social en fait qui est inhérent à l'éducation, mais en fait c'était pas du travail, c'était pas légitime, c'était pas reconnu, et ça c'est du travail qui est assuré principalement par des précaires en fait dans l'éducation aujourd'hui.
Je trouve qu'on peut aussi voir la même situation finalement dans à l'université. Les vacataires, ce dont ils se chargent, c'est souvent des L1, des L2, ceux qui rentrent finalement à l'université et donc qui changent d'univers, qui changent de monde social. Ils passent du lycée à l'université et donc ils viennent aussi faire ce lien finalement entre ces deux mondes. Et je trouve que c'est eux aussi qui du coup sont chargés un peu de les adapter. Donc c'est aussi eux qui font ce travail social de tampon entre ces deux univers et qui viennent, et c'est peut-être pour ça aussi que ce sont ils interviennent à des moments qui sont moins prisés par les titulaires, mais pourtant qui est essentiel pour que l'étudiant puisse après continuer et trouver dans l'université des possibilités d'évoluer.
Justement, comme on intervient, le personnel précaire à l'université, à terre, contrat doctoral, vacataire et autres statuts confondus, principalement en première année, ça fait qu'on n'intervient pas forcément sur le cœur de nos compétences, sur le par exemple des enseignements qui sont en lien avec nos thèses, qui pourtant existent. Et donc du coup, on va avoir une relation à l'enseignement qui est très particulière, puisque ça fait surcharge de travail, ce qui n'est pas le cas pour le personnel titulaire, puisque le personnel titulaire enseigne principalement sur ce quoi il travaille. Ce qui n'est pas notre cas. Et on a un problème, du coup, c'est quasiment un triple problème de légitimité, puisque on est perçu comme en formation. Pourtant, on nous donne un contrat de travail qui nous reconnaît donc les compétences au même titre qu'un titulaire. Donc, on ne devrait pas être perçu comme en formation, on devrait être perçu comme ayant les compétences de faire le contrat de travail qui nous a été alloué. Par ailleurs, on n'a pas forcément la légitimité. On intériorise une certaine illégitimité du fait que, on n'enseigne pas forcément sur notre cœur de compétences. Et donc, du coup, c'est de plus en plus difficile de défendre des positions face aux collègues, parce qu'on ne se sent pas légitime sur tel lieu, telle matière, tel enseignement. Et on ne va pas se sentir légitime aussi du fait de toutes les craintes qui entourent les statuts de précarité, du fait que notre emploi, on ne sait pas s'il va être renouvelé, s'il va être reconduit, s'il peut être mis en question, etc. Et donc se positionner sur le fond de qu'est-ce qu'on veut transmettre et de comment on veut le transmettre est compliqué quand on n'est pas entendu ou pas reconnu. Donc moi, quand on discutait tout à l'heure, je donnais l'exemple que, par exemple, dans une UE, on parle des modalités d'évaluation. Certains titulaires proposent des modalités d'évaluation avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais de manière complètement non argumentée, en disant on va faire un contrôle terminal sur l'ensemble du semestre alors qu'il y a eu la moitié des CM, et on va évaluer les TD alors qu'il y a eu deux cours de TD. Moi, il m'a fallu une semaine avant de me positionner pour dire... non, je ne suis pas d'accord, et il a fallu que j'écrive un mail très très argumenté, ce qu'un titulaire n'aurait jamais fait. Je pense qu'on incorpore aussi beaucoup la précarité et cette espèce d'illégitimité qui en fait est factice. Enfin, on est légitime, on est à notre place, on a les compétences, on n'est pas en formation, on est en travail, on est en formation dans notre thèse, dans notre doctorat peut-être, mais... Et puis, ce n'est pas toujours le cas. En plus, il y a plein de vacataires qui ont fini leur thèse et leur doctorat.
Ces dimensions de la légitimité et de la reconnaissance sont assez transversales. Finalement, on s'est reconnu aussi dans ça quand on parlait entre personnel de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire et que ces divisions hiérarchiques, encore je reprends l'exemple de la fac, mais finalement, le fait d'être titulaire te permet d'accaparer à la fois des cours qui, au niveau capital culturel, capital intellectuel, sont valorisés aussi, mais aussi au niveau capital économique, c'est-à-dire qu'ils font des cours qui ont des coefficients plus élevés. Donc, on voit comment la précarité, les précaires se retrouvent finalement à, encore une fois, être adaptés et s'adapter à ce que veulent d'abord des non-précaires, des titulaires. Donc voilà, et on voit à quel point finalement ça peut jouer après sur une inégalité de statut dans la division du travail.
Bah, et puis, en plus, du coup, à force d'intervenir dans des UE qui ne sont pas valorisés, par exemple, je sais pas, les cours de méthodologie en première année, on se retrouve avec des CV avec 192 heures x 4 de méthodologie qui, en fait, nous permettent pas de sortir du statut de précaire parce qu'à force, on finit par avoir des CV où on n'a que des cours qui ne sont pas valorisés au moment de recrutement.
Spécialisés en précarité.
Non, mais spécialisés en méthodo et en, ouais, et en précarité.
Il y a un effet que la précarité renforce la précarité et on le voit autant au sein de la même organisation de travail, que ce soit à l'université ou dans le secondaire, mais aussi que cette précarité, on doit l'accumuler avec d'autres activités précaires. Par exemple, alors je prends mon exemple en tant que vacataire, n'étant payé que tous les 6 mois, j'ai dû à côté travailler chez Deliveroo, donc un autre travail précaire au statut d'auto-entrepreneur et faisant partie d'une manœuvre totalement flexibilisée. Donc j'étais autant précaire à la fac que dans un secteur privé comme celui de Deliveroo, dont on connaît les conséquences chez le travailleur. Et il y a un autre exemple d'une camarade qui disait que en plus des cours qu'elle donne dans l'enseignement secondaire, elle devait aussi donner des cours particuliers au black, au noir, pour pouvoir survivre. Donc on voit comment se cumule comment la précarité appelle un cumul et un renforcement de la précarité.
Bah, peut-être du coup pour les perspectives, je pense que il y a plein de choses sur aussi l'invisibilité de nous, personnel précaire, dans le secondaire, dans le supérieur. Et je pense que c'est super important de s'organiser, de commencer par se rencontrer, de se rencontrer dans nos établissements. Entre personnes politisées ou pas, parce que je pense que c'est des choses qui tiennent en fait à nos conditions de travail quotidiennes, tout ça. Donc du coup, c'est des choses dont on peut discuter. Il faut pas trop se mettre de limites dans ce qu'on peut partager, et des manières en fait qu'on peut, des moyens qu'on a de s'organiser ensemble. J'ai l'impression qu'on se dévalorise souvent ou on se sous-estime dans l'impact qu'on peut avoir quand des surveillants bloquent une vie scolaire, quand des profs contractuels font grève. En fait, aujourd'hui, c'est assez effarant en fait de voir comment que les précaires ont peu de soutien de la part des titulaires, notamment dans l'enseignement supérieur. Et moi, mon expérience en fait, c'est aussi en fait, j'étais sidérée du cynisme en fait qui peut exister chez les professeurs, enfin chez les enseignants titulaires qui sont en fait tout à fait conscients en fait de la situation, des transformations structurelles qui se passent dans la précarisation croissante des statuts et dans l'éducation nationale. Et ça me fait penser que je me rappelle une réunion que j'ai faite avec qui était organisée par le rectorat, qui avait réuni en l'occurrence une trentaine de contractuels. Alors à la base, on devait être formés sur ce qu'on devait faire en tant que contractuel. C'était une journée. Et en fait, il s'est trouvé qu'on s'est retrouvé à 30 contractuels genre enragés parce qu'on avait tous des contrats de merde et qu'on avait juste envie que la journée se termine, qu'on discute, qu'on partage sur en fait c'est quoi nos stratégies, c'est quoi les stratégies à adopter face au rendez-vous avec les proviseurs, face au rectorat, comment est-ce qu'on se défend, etc. Et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a pris la parole c'était pas le recteur, mais c'était la personne qui le représentait, en disant, nos situations sont complètement injustes, on est précaires. Et lui, il nous a rayonné en nous disant, on peut dire que vous payez ma stabilité, quoi. Votre précarité paye ma stabilité. Du coup, je pense que face à tant de cynisme, et nous, on peut et on doit s'organiser, qu'on peut aussi trouver des alliés chez les titulaires, et d'ailleurs que c'est nécessaire pour la suite. Et du coup, pour finir, je pense que la grève, c'est aussi un moyen qui doit être investi parmi d'autres pour créer du lien dans nos établissements, dans nos lieux de travail et de faire ressortir nos revendications et ce qu'on vit, quoi.
La grève comme l'échange, faire du lien social entre précaires, fait partie de ce moyen de se visibiliser. Donc voilà, la grève visibilise, se réunir entre nous, élaborer des revendications, élaborer un travail de revendication permet aussi de nous visibiliser. Et un autre moyen de se visibiliser, c'est dans l'espace. Avoir un local, par exemple, avoir quelque chose qui nous permet, dans l'espace, de bien voir qu'il y a de la précarité, à un endroit et permet d'en prendre conscience pour les gens qui nous entourent. Et donc, par exemple, dans le supérieur, il y a des salles des profs, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas profs et qui vont dans ces salles. Donc, on pourrait faire une salle des personnels, par exemple. Pour inclure tout le monde, je prends l'exemple de la fac. Les athères et les chargés de cours, eux, sont mis par pack de 20 dans des salles, alors que, par exemple, les autres personnes, les titulaires, eux, ont chacun ont des bureaux nominatifs. Nous, on n'a même pas nos noms. On est regroupés par pack de 20 comme ça. Et donc, voilà. Donc, c'est... Alors qu'on occupe un espace important en termes de volume horaire. Donc on voit bien qu'il faut visibiliser tout ça et par l'appropriation de l'espace et par l'appropriation d'un temps de travail pour élaborer des revendications, pour faire grève, pour montrer aussi l'importance qu'on a au sein de l'organisation du travail.
Dans le prolongement, dans cette idée qu'on a une place et on peut bloquer des choses, c'est aussi la légitimité de notre point de vue. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aussi, moi, ce que je constate chez les titulaires, moi, je suis donc vacataire ici à l'université, c'est aussi une acceptation d'une situation qui se dégrade, un certain aveuglement, une mauvaise foi, due aussi à des conditions de travail, des conditions salariales des fois privilégiées, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à d'autres situations, en tout cas qui veulent préserver quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte à la communauté et aux précaires. Et les précaires, on est un symptôme, on est quelque chose qui rend visible ça. Et nous rendre visible, c'est aussi dire que notre point de vue compte. Et notre point de vue sur l'institution compte. Et le fait qu'on puisse aujourd'hui parler entre des contractuels du secondaire, des personnes de l'université, des AED, des personnes des chefs de famille en situation précaire, etc., et que tu parles de Deliveroo, on a une position qui est transverse et qui nous permet qui est un vrai point de vue sur le social. C'est-à-dire qu'on a un privilège à cet endroit-là, un privilège épistémologique de dire un peu de la réalité de ce qui se passe, quoi. Et je pense que ce truc-là, de s'assumer et de pouvoir leur rebalancer à la gueule qu'ils sont en train de se masquer le fait que l'université ou l'éducation nationale part en lambeaux, et ceux qui vont morfler, ben c'est les gamins qui viennent, c'est les étudiants et étudiantes, c'est la continuité de tout. Bloquer ça, à partir de notre position, c'est pas juste être en manque d'être comme eux, titulaires, mais c'est une vraie façon de retrouver un poids politique, sortir d'une minorité politique dans laquelle on nous laisse en étant précaire. Et parce qu'en plus, c'est tout bénef, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu à la fois un personnel qui n'est pas cher pour l'institution et qui est en situation de minorité politique. Et sortir de ça, sortir de ces deux points de vue en même temps, je pense que de ces deux situations en même temps, je pense que là, il y a quelque chose peut-être qui relève aussi de la force qu'on peut prendre, quoi.
Je pense que la tâche est encore rude. Quand tu parlais de leur balancer à la gueule notre réalité sociale, finalement, parce qu'on est privilégié dans cette réalité sociale et qu'on est capable de produire, d'avoir du recul sur nous-mêmes, de produire du savoir sur cette réalité. Je me souviens très bien d'un moment où j'étais entouré de titulaires et qui m'avaient et je leur avais exprimé la sorte de mépris social qu'il pouvait y avoir de leur part envers les précaires. Et beaucoup s'étaient entêtés à me dire non, il n'y a pas de mépris. Alors ça veut dire qu'on me refusait on voulait même pas me reconnaître mon expérience du social. Donc je pense que ça participe encore une fois de plus au mépris. On méprise même ton vécu, ton expérience vécue de la réalité. Donc il y a quand même oui, leur balancer à la gueule, mais pas qu'une fois, beaucoup de fois, et insister et le démontrer avec des arguments qui leur parlent qu'on soit en mesure après d'instaurer un dialogue. Le but, c'est pas de nous diviser, justement. Le but, c'est qu'on puisse prendre chacun puisse faire la part des choses, qu'on comprenne la réalité de chacun dans cette division du travail pour après aller sur un objectif commun de repenser le travail et repenser ce qu'il faut faire au sein de l'université ou au sein du secondaire.
Allez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est Bras Zéro Dictée Surprise.
Oh non.
S'il vous plaît. On va commencer. Sortez un crayon.
Bah, t'as pas un stylo, s'il te plaît.
S'il vous plaît, une feuille blanche. On va voir si vous arrivez à écrire droit.
T'as pas une feuille aussi.
Ça commence.
Attends.
De 19h à 20h.
19h, l'écran en entier ou juste...
S'il vous plaît, de 19h à 20h, virgule, j'écoute bras 0, virgule, j'écoute bras 0, virgule, sur Canal Sud, virgule, 92.2. 92.2. Vos copies sur le bureau.
Attends, fais voir.
Cumbia, cumbia. Cumbia, proleta.
Question, c'était sur c'était comment faire un collectif de précaires, c'est pour pas dire de conneries. Donc on est parti de la question de pourquoi c'est dur de se rassembler, ce qui nous a amené à déterminer des objectifs qui pouvaient être ceux des précaires, à savoir lié à l'éducation, plus de moyens dans les facs, à développer la gratuité, que ça soit la gratuité au niveau de l'inscription dans les facs ou au niveau des transports publics par exemple au niveau local.
Et du coup, on travaillait sur ce qu'on avait en commun en tant que personnes précaires, puisqu'on a des situations relativement éclatées. Donc on a eu ça, l'isolement, le fait qu'on a l'impression d'être seul dans sa situation, l'invisibilité, le fait qu'on est peu visible et qu'on ne voit pas bien les autres non plus, la peur du lendemain et la fragilité des précaires, quoi, et la question de la légitimité aussi, du fait de s'organiser en tant que collectif précaire. Voilà, où en tant que personne, on ne sent pas forcément à même de porter cette question précaire. Voilà, tout le monde n'a pas conscience d'être de la classe des précaires, par exemple, quoi. Du coup, là-dessus, nous est venue une réflexion sur le fait qu'on était, c'est toi qui était sur la question du fait que tu es réduit à un rôle d'exécutant dans ton taf d'assistante d'éducation.
Ouais, du coup, c'est le fait qu'on soit pas forcément convié à la politique des établissements, comme les conseils d'administration, les conseils de discipline, et que on soit réduit à un rôle d'exécutant sans possibilité de d'avoir son propre point de vue.
Ouais, d'être rien d'autre que des bras, quoi.
Voilà, c'est ça.
Des jambes, surtout n'ayez pas de cerveau. Et du coup, cette question sur la politisation du lieu de travail, enfin du travail en soi, à savoir qu'il y avait une dépolitisation du travail, c'est là-dessus qu'on s'est entendu. Et du coup, parmi les objectifs, nous est venue cette idée que les pistes à explorer étaient notamment celle de repolitiser le travail et éventuellement de politiser le fait de ne pas travailler aussi. Puisque du coup, peut-être que notre objectif n'est pas le plein emploi en tant que précaire, hein, mais bien une façon de vivre quand on n'en a pas aussi, de façon décente et sans peur. Donc on a terminé par la question de comment on pourrait s'y prendre pour repolitiser, créer des espaces de réflexion, pérenniser les collectifs précaires conditionnels qu'on imaginait, comment on brise cette logique d'isolement. Comment on va le réfléchir, parce que ce qu'on se disait, c'est qu'avoir si on réfléchissait le système de l'éducation actuellement, on serait très peu à penser que ce serait bien que le système de l'éducation repose sur le travail précaire, par exemple. Pas un truc qui nous viendrait. Si cette réflexion-là est celle qui est dominante dans le débat actuel, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que c'est pas nous qui décidons. Comme on le disait avant, on n'a pas le choix politique des structures dans lesquelles on bosse, on a besoin de thunes, quoi. Et du coup, on a fini brièvement sur cette notion qu'on partageait nos précarités, avec encore une fois un exemple de toi, où en tant qu'assistante d'éducation, tu étais amenée à t'occuper des gamins.
Ouais, voilà. C'est en fait, je me suis rendu compte que les gamins auprès de qui j'étais le plus susceptible d'être, c'était surtout les gamins qui se faisaient soit exclure de cours, ou alors les gamins qui avaient des régimes particuliers et qui étaient obligés de rester au collège jusqu'à 17h. Et du coup, c'est des gamins qui seraient aussi issus des familles les plus précaires, qui auraient besoin éventuellement de plus d'investissement pour les accompagner. Et du coup, c'est moi qui ai toujours chargée d'être avec eux alors que je suis la plus précaire de l'établissement.
Non, mais moi, juste pour conclure, c'était dans la réflexion qu'on a eue sur cette question de comment on peut faire, comment on peut repolitiser, c'était de voir comment on crée des espaces entre travailleurs précaires pour pouvoir discuter entre nous, mais aussi que ces espaces ne soient pas confinés dans les différents secteurs, qu'ils puissent avoir une discussion entre les précaires de différents secteurs, que ce soit l'éducation, mais aussi ailleurs, et d'ailleurs aussi avec les chômeurs. Et avec cette idée aussi, toujours dans la logique de repolitiser, c'est-à-dire pas seulement discuter entre nous de savoir comment on peut vaincre, enfin se protéger des conséquences directes de la précarité, mais bien repenser la question du travail en elle-même, et notamment on a un peu plus détaillé sur la question de l'éducation, c'est-à-dire quelle est l'éducation qu'on veut, quel système d'éducation on veut, et pas juste être là entre précaires à se dire voilà, il faut se protéger des problèmes de la précarité à l'université, dans le secondaire, etc. Mais comment on construit une école, une université, où la précarité soit complètement exclue et où on soit dans une autre forme de production de savoir.
Liana ?
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pas entendu un truc bizarre ?
Si.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Macron, qui finit d'exploser tous les derniers droits qu'on avait encore un peu. Des fois, il y a raideur, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Ah.
Et qui dit explosion, dit mouvement social, d'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure.
Ah, d'accord.
La la la, la 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 la, la 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 la.
Dis donc.
Quoi ?
Tu sens pas le brûler ?
Bah ouais, c'est normal. Je t'ai expliqué. Il y a un mouvement social.
Ouais.
Et l'agitation sociétale due à ce mouvement social...
La quoi ?
L'agitation sociétale.
Ah oui, oui.
...provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui, d'accord.
C'est alors ce qu'on appelle l'insurrection. C'est normal.
Ah.
Tu comprends ?
Oui, oui. Mais...
Qu'est-ce que tu voulais ?
Là, je voudrais savoir. Toutes les banques sont en train de brûler, c'est bien ça ?
Mais oui, écoute. Les symboles du capitalisme morflent en premier avec les agences d'intérim et les forces de répression. Tu comprends ?
Ouais, ouais.
C'est normal, parce que de toute façon, les travailleurs et les travailleuses et les improductifs en ont gros sur la patate.
Ouais.
Alors le feu, c'est chouette et c'est efficace.
Ah ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'une révolution.
Ah, une révolution.
C'est normal.
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui ?
D'accord.
La 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 la. La 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 la.
Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Tu te sens pas comme si on commençait à cramer, là, un peu ?
Écoute, écoute.
Oui.
Essaye de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la révolution ?
Ouais.
La destruction du capital par les flammes.
Ouais.
Bon, ça veut dire que pas mal de structures de domination ont disparu.
Ouais.
Et que nous sommes beaucoup moins contraintes.
Ah, ouais, ouais.
Or, une vie moins contrainte permet toutes les inventions et tous les changements. C'est ce qu'on appelle la révolution sociale. C'est normal.
Ah, ouais.
C'est tout à fait normal.
C'est la révolution.
Voilà.
C'est fini. C'était Brasero et c'était Radio Précaire depuis la maison de la précarité de l'université du Mirail, occupée. Un appel est lancé pour rejoindre la manifestation du 19 avril et faire un cortège de toutes les précaires et de toutes les précarités. Alors à bientôt dans la rue.